Je m'appelle Lola, j'ai 20 ans, je suis étudiante aux Beaux-Arts de Nantes depuis un an, après avoir fait une classe préparatoire en arts plastiques à Bayonne.
En 2018, le 18 décembre, j'ai participé à une manifestation contre l'organisation du G7 à Biarritz et le ministre Jean-Yves Le Drian venait du coup en réunion. Du coup, on s'est rendu à cette manifestation dans le centre de Biarritz avec tout type de militants, des militants altermondialistes du coin ou quelques gilets jaunes, voilà, des mouvements écolos et d'autres personnes un peu indépendantes, tout ça. Les gens étaient là pour dire qu'ils voulaient pas de ce sommet ici, ils voulaient pas d'une privatisation. Voilà, c'était des gens locaux qui venaient, voilà, parce qu'ils étaient pas contents et qu'ils en voulaient pas. Ils l'ont subi un petit peu comme une provocation et ils savaient aussi toute la répression qui allait s'en suivre. Et d'ailleurs, ça a bien commencé ce jour-là, parce que ce jour-là, il y a eu une vraie démonstration de force de la part des policiers qui presque laisse à penser qu'ils mettent en garde pour la tenue du sommet en août. Du coup, avec mon amie Marie, on s'en va pour la manif, on y va en voiture, on se gare à Biarritz, pas très loin de la place. Pour moi, on était quand même beaucoup de monde, vu le nombre de personnes qu'il y a en général dans les manifs ici. Il n'y a jamais grand monde, mais bon, honnêtement, on était peut-être 150, 200, c'était peut-être, ça commençait à être bien. Et voilà, après, on est resté un petit moment là, peut-être, mais pas si longtemps que ça. On a dû rester une demi-heure, un truc comme ça. Voilà, donc les gens criaient, ils n'étaient pas contents, ils criaient des slogans à basque. Les gens s'énervent un petit peu de voir autant aussi de policiers encerclés qui avaient déjà dispersé plusieurs barrières pour rassembler un peu les gens, tout ça. Donc les gens ont secoué les barrières sans violence, mais dans un geste un peu de provocation aussi, je pense. La riposte, elle a été directe par des tirs de lacrymogènes, par un tir de LBD aussi. La plupart des gens sont partis dispersés dans les ruelles. Donc directement, ça a formé des petits groupes de gens, voilà. Enfin, manifestation qui en est devenue une parce qu'on a été dispersés, mais qui de base était quand même un rassemblement sur la place Clémenceau à Biarritz. C'était vraiment ça l'objectif. Après, on a été quelques-uns à être opportunistes et du coup à réussir à se rendre sur les bords de plage. Mais bon, ça restait quand même un espace assez large vu le nombre de personnes qu'on était. On n'était pas attroupés. Il n'y a pas eu de feu de poubelle, il n'y a pas eu de vitrine cassée, rien de vraiment violent de la part des manifestants. Et quand on voit le dispositif policier en face, moi j'avais un monsieur à côté de moi, il parlait dans sa capuche, voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient même là en civil, il y avait tout un tas d'unités. D'ailleurs, le premier LBD qui a été tiré directement après avoir lancé du gaz à la place Clémenceau, ça a été un tir de LBD par un mec de la BEC. Hein. Et il y avait un autre monsieur qui s'était fait tirer aussi, je ne sais pas si c'était dans le temps, si c'était avant moi ou après moi, mais en tout cas, au même moment, on s'est retrouvés dans la même clinique. Un monsieur, je ne sais pas, la soixantaine peut-être, qui s'est pris un tir de LBD dans le dos. Parce qu'en fait, tout le monde courait, et, forcément. Hein. On arrive du coup sur cette promenade au bord de la plage de Biarritz. Du coup, je suis avec mon ami toujours, on arrive tranquillement. On regarde un peu comment ça se passe, donc on voit quelques policiers voilà, qui forment une ligne entre la mer, le sable et sur l'esplanade aussi, filtrer un peu, et enfin ne pas laisser en tout cas passer les manifestants. Donc du coup à ce moment-là, bah, je me mets un peu à observer, parce que bah, je vois des mecs sur des toits, je regarde un peu quelle unité c'est, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et bah, c'était un moment fort aussi parce que du coup c'était, on était tous assez dispersés, mais il y avait des gilets jaunes, des gens comme ça un peu dispersés un peu partout qui s'amusaient à courir sur le sable, donc voilà, tu vois, il y avait un truc un peu enfantin et marrant qui se passait là, et même le cadre était joli quoi, enfin en bord de plage comme ça, mais c'est vrai que c'était surprenant quand même de voir ce déploiement des forces de l'ordre sur la plage à Biarritz. Enfin, j'ai jamais vu ça ici quoi, enfin les manifestations d'habitude ça se passe toujours très tranquillement. J'y suis allée avec une amie, mais j'avais aussi une caméra de l'école où je suis. Et du coup, j'étais avec cette caméra un peu dans le but de documenter ce qui se passait. Donc j'ai fait quelques rushs, mais pas grand-chose non plus. décide un peu de couper à travers les buissons et de me mettre sur un banc un peu pour regarder à travers l'objectif. Du coup, à ce moment-là, je filme pas, en fait. Donc, je regarde un peu à travers le viseur, je zoome, voilà, je regarde un peu ce qui se passe à travers la caméra. Et je suis debout sur ce banc. Et un peu dans ma trajectoire, devant moi, il y a du coup un mec comme ça, un manifestant aussi, qui jette un sachet avec une crotte de chien qu'il a dû récupérer, quoi. Et il jette ce sachet en criant deux fois « Attention, merde de chien, attention, merde de chien !» Et du coup, j'entends le mec crier ça. Et même pas une seconde après, le tir qui part, et j'entends le tir, et je prends direct le choc, parce que du coup, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai pris, enfin, voilà, du coup, moi, à ce moment-là, je filmais vers la gauche, en fait, enfin, je filmais pas, mais je regardais à travers la caméra, et plutôt vers la gauche, et le tir, du coup, et la scène un peu qui se passe vers la droite, et du coup, je filme à gauche, et je sens l'impact arriver de la droite, du coup, en fait, j'entends juste un peu ce qui se passe autour de moi, mais à aucun moment je m'attends à une réplique violente, à quelque chose de violent qui va se passer. C'est hyper, hyper rapide et hyper violent, quoi. Enfin, c'est la riposte qui a été choisie à ce moment-là par l'un des policiers. Ça a été une riposte au LBD, voilà, sans sommation, sans rien. Directement, quand j'ai entendu le tir et que je l'ai senti dans ma figure, quoi, je savais que c'était un tir de LBD. J'ai reconnu le bruit. J'avais déjà vu plusieurs vidéos de gens en manifestation qui se prenaient tout un tas de trucs dans la tronche. Et du coup, je savais que c'était un tir de LBD, mais je comprenais pas, en fait, pourquoi, qu'est-ce qui avait pu déclencher cette envie de tirer avec une arme comme ça, sans viser, sans rien, sans... Voilà. Je mets ma main directement pour faire un effet compresse. Je descends de mon banc et je commence à courir, mais ça, je m'en souviens pas. C'est en re-regardant les vidéos, en fait, que je me vois à un moment donné courir dans le fond. Donc ça, je m'en souvenais pas. Pour moi, j'étais juste descendue de mon banc et j'avais marché, et je m'étais assise après. Non, apparemment, je cours un petit peu jusqu'au banc d'après, où là, je croise un street medic qui m'assoit sur le banc. Et puis, à ce moment-là, en fait, il y a un camion de pompiers qui arrive en bord de plage. Donc, du coup, mon ami a été arrêté, le camion de pompiers. Du coup, le street medic n'a même pas eu le temps de me faire des soins, en fait. Il m'a de suite relevé, il m'a aidé un petit peu à marcher et il m'a amené jusqu'au camion de pompiers. Voilà. Moi, à ce moment-là, j'étais énervée. J'avais envie d'aller me mettre devant les policiers qui étaient là et leur dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?» Enfin, parce que je comprenais vraiment pas. C'était tellement... Enfin, c'est injuste parce que ça devait pas arriver, en fait. Dans la vidéo, on me voit, je pars, je fais des doigts d'honneur et je crois que je crie « enfoiré », un truc comme ça. Les pompiers, du coup, il y en avait un qui avait l'air plus expérimenté que l'autre, et le jeune, tu vois, il avait l'air d'être quand même surpris, parce que je leur ai dit que c'était un policier qui m'avait tiré dessus. Je l'ai vu dans leurs yeux qu'ils étaient vachement choqués. Et voilà, après, avec les compresses s'imbibaient, ils changeaient pas assez rapidement. Ils étaient complètement choqués de me voir comme ça. Et même moi, j'étais très vive, parce qu'au début, je suis passée par une étape où je sais ce que c'est, mais là, je comprends pas. Après, par la colère, directement après. Et après, je sais pas trop ce que c'était, mais après, dans le camion, c'était des crises, quoi. Je prenais le sang, je balançais tout partout. On a été obligé de me demander de me calmer, tout ça. J'ai eu le moment de sanglots, un peu de... C'était pas des pleurs, mais c'était, voilà, de choc post-traumatique, là, de suite après, où, voilà, j'avais du mal à m'exprimer, à respirer, c'était... Donc j'avais du mal à me faire comprendre aussi, et j'arrivais pas à me calmer, je faisais que dire aux pompiers, mais vous rendez compte de ce qu'ils m'ont fait, et voilà, et je gérais plus rien, et en arrivant à l'hôpital, du coup, de suite, on m'a mis des calmants pour me détendre, tout ça. Ça m'est arrivé sur plusieurs jours, ça, après, tout le long déjà où j'étais à l'hôpital, et même après, il suffisait que je me revoie, il suffisait que j'y repense un instant ou quoi. C'était pas des pleurs, j'étais pas triste ou quoi, c'était vraiment le choc, j'hyperventilais. Et ça m'arrivait comme ça plusieurs fois, dans la journée, dans la nuit. Je pense que c'était dû au choc post-traumatique, hein. Thank you. moment où j'ai pris le tir, j'avais que l'adrénaline qui me faisait réagir et qui faisait que j'avais pas mal, aucune douleur. Et c'est dans le camion de pompiers, déjà, j'ai commencé à ressentir la douleur quand on a fait la route, pris les dodanes. Là, je sentais que ça se réveillait. Après, à l'hôpital, comme directement, on m'a mis des calmants, tout ça, on m'a mis des antidouleurs. Donc là, j'avais pas mal. Et c'est vraiment après, une fois avoir été recousue, parce que j'ai été recousue directement en arrivant. C'est plus après, ouais, quand les cachets font plus effet, que les douleurs ont commencé à se réveiller. Le tir de LBD a impacté du coup le côté droit de ma bouche, à la commissure des lèvres. Sur le coup, ça m'a éjecté une dent que j'ai jamais retrouvée. Forcément, il y avait la peau qui était déchirée à l'extérieur comme à l'intérieur. J'ai la stomatologue qui m'a recousu d'abord tout ce qui était déchiré. Donc j'ai dû avoir environ entre 40 et 50 points de suture. Le lendemain, du coup, j'ai fait tout ce qui était radio, tout ça, pour voir s'il y avait des choses qui avaient été fracturées. Parce qu'au début, je sentais pas en fait que ma mâchoire était décalée, couchée, tout ça, je sentais pas. Ce qui se passait dans ma bouche, je savais que c'était gonflé et que ça saignait. C'est tout ce que je savais. Donc là, on a vu qu'il y avait une triple fracture. Donc une double fracture mandibulaire et une fracture au côté droit en racine de dent sur la mâchoire du bas. On a mis une plaque seulement pour la fracture mandibulaire. Et après, comme j'avais des dents un peu instables et fragilisées sur la mâchoire du bas, on m'a rajouté une broche en fait en racine de dent pour maintenir, et au final j'ai eu de la chance, ça s'est consolidé, donc j'ai perdu qu'une dent sur le moment. Sur les séquelles physiques à venir, déjà il y a le bilan médico-judiciaire que j'avais fait pour le dossier de l'IGPN, qui parle un peu de, par exemple, d'arthrose précoce, tout ça, parce que forcément ça a touché les articulations, déjà la mâchoire. Donc forcément, les mouvements, c'est pas les mêmes. La mâchoire a été touchée, elle a été décalée, donc les dents aussi doivent retrouver un certain confort, une certaine stabilité. Donc en plus, le tir, il a été fait dans la bouche, donc forcément, les dents, c'est quelque chose de fragile. Donc forcément, l'impact, même si sur le coup, j'ai perdu une dent, il y a des potentielles séquelles qui peuvent venir parce qu'il y a une fragilité des dents qui est présente, et je perds des fois des petits morceaux de dents. J'ai une dent qu'on a dévitalisée, qui est en train de pourrir, qu'il va falloir enlever, je pense. Là, bientôt, je vais mettre mon implant aussi. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, les dents, ça reste quelque chose à surveiller, que je surveille avec le dentiste. Pour la mâchoire, j'ai très bien récupéré. Franchement, même ma kiné était impressionnée, parce que j'ai fait une vingtaine de séances de kiné, et même si je sens les limites, j'ai plus vraiment de douleur. C'est plutôt des gènes, en fait. La kiné m'a rendu une élasticité un peu de la bouche, quoi. Donc ça m'a aidé à m'exprimer en articulant mieux. Après, même moi, j'ai fait ce travail-là aussi d'articuler un peu plus, parce qu'en fait, vu que c'est la commissure des lèvres qui a été impactée, au début, le temps que tout se remette bien et essayer de se remettre au mieux, j'avais toujours un espèce de petit trou pile dans l'alignement du trou de la dent qui me manque, en fait. Donc soit j'avais des sons qui sortaient, soit je me bavais dessus. Et avec la kiné, j'ai vachement récupéré, quoi, de la mobilité, et de l'articulation, tout ça. Quand j'ai été voir mon ostéopathe, elle m'a bien expliqué que tout était lié. J'ai pris un choc dans la bouche, mais rien que la puissance du choc d'un truc qui arrive à la vitesse d'un TGV, c'est énorme. L'onde de choc que ça provoque, pour l'instant, c'est ciblé la mâchoire, tout ça, mais bon, il y a beaucoup le dos aussi, après, des gènes au niveau des cervicales. Enfin, l'impact, il a été sur tout le corps. Alors, je suis restée 3 jours à l'hôpital, à la clinique de Biarritz. Je partageais une chambre, du coup, avec une autre patiente que je plains, parce que tous les soirs, c'était un peu des sanglotements. On commence à réaliser petit à petit ce qui vient de nous arriver. On se voit dans le miroir maintenant, donc on voit les dégâts qui ont été faits. Et même si on nous explique que ça va se rétablir, tout ça, on a du mal à y croire. Le soir même, du coup, j'ai vu ma mère, qui m'a rejoint quand j'attendais encore en salle d'attente. Après avoir été recousue, j'attendais pour avoir une chambre. Donc elle est arrivée. J'ai vu dans son regard la colère, la tristesse. C'est ça le truc, c'est que moi je l'ai vécu d'une certaine façon. Pendant tout un moment, je me suis pas vue et je j'imaginais pas l'ampleur des dégâts entre guillemets, enfin de ce que ça pouvait causer comme mal. Et là, de voir ma mère, du coup, quand j'ai vu qu'elle était à ce point en colère, à ce point triste, elle tenait plus en place, elle était tremblante. Enfin, voilà, c'est quand même marquant de voir ses parents dans des états pas possibles. Du coup, j'ai passé mes vacances de Noël voilà, avec ma famille. Je suis rentrée du coup, chez ma mère d'abord. Au début, j'avais beaucoup de douleurs. Et puis même, c'est quelque chose qu'il faut entretenir tous les jours, qu'il faut nettoyer tous les jours. Franchement, c'est choquant de se voir dans cet état-là. C'est traumatisant. On ne comprend pas pourquoi moi, enfin, qu'est-ce que je faisais. On se met à se culpabiliser et à regretter d'avoir exercé un droit de manifester. Tout ça parce que... on a été blessés injustement. Enfin, ces jours-là, ça a été compliqué, mais j'ai été bien entourée par ma famille. J'ai passé Noël, du coup, j'ai eu le droit aux meilleures soupes pour le repas de Noël. De toute manière, c'est tout ce que je pouvais manger. J'ai eu ma rentrée en début janvier. C'est une école dans laquelle je me sentais bien, c'est l'école d'art de Bayonne. Dès que c'est arrivé, j'ai été vachement soutenue par l'école, en fait, et par mes professeurs, publiquement, voilà, qui m'ont soutenue suite à ça. Donc, je trouvais ça déjà... assez ouf, même si c'était 3 semaines après le tir, j'y suis quand même retournée. Voilà, je cachais un petit peu parce que ben, les points n'étaient pas encore enlevés, c'était pas très joli à voir, tout ça, donc je mettais quand même un foulard ou quelque chose, mais bon, c'était quand même un lieu dans lequel je me sentais bien et j'avais pas envie que du coup ce tir, certes, il m'a impacté psychologiquement et tout, mais je voulais pas, dès le début, commencer à m'enfermer dans un truc. Moi, j'avais qu'une envie, c'était retrouver mes copains qui, je savais, étaient au courant, qu'ils allaient pas m'embêter avec ça, que j'allais recevoir du soutien et que ça allait me faire 1000 fois de mieux que de rester enfermée chez moi. J'avais au contraire envie de m'exprimer, voilà, d'en parler avec mes professeurs, d'en parler avec mes amis, de dire à quel point j'étais en colère aussi de ce qui m'est arrivé, et voilà. Donc j'ai continué l'année bien entourée. Mes profs m'ont aidé à réussir du coup mes concours pour entrer aux Beaux-Arts de Nantes. Je vais rentrer là en deuxième année. Et ce soutien, ça m'a aidé aussi à pas foutre une année d'école en l'air, même si elle a quand même été partiellement gâchée. Ça m'a vachement aidé à pouvoir continuer et à faire en sorte que tout s'arrête pas pour ça. Le préfet a saisi l'IGPN directement. Ça a été un point d'abord qui m'a vachement rassurée de voir que ça avait été saisi. Donc j'avais pas besoin de saisir moi-même l'IGPN. L'une de mes sœurs et mon père se sont mobilisés du coup pour trouver une avocate. Donc on a trouvé une avocate qui est maître Sophie Bussière du barreau de Bayonne, avec qui je m'entends bien et que je suis très contente qu'elle dénonce avec moi les violences policières. Dans un premier temps, on a déposé plainte contre X, personne dépositaire de l'autorité publique. Je ne me souviens pas exactement de la formulation, mais c'est quelque chose comme ça. Dans les mois qui ont suivi, du coup, j'ai eu mon entretien avec l'IGPN. On revient sur tous les faits, moi sur mon identité. Qu'est-ce que je faisais ce jour-là en tant que personne, si j'appartiens à des groupuscules, à machin, enfin voilà. Et après, on revient sur vraiment les faits. Le fonctionnaire de l'IGPN, il a été quand même sympathique, malgré le fait qu'il me parlait du potentiel tireur comme de son collègue. Mais bon, à part ça, il m'a quand même tenu avisé au fil des mois. Il m'a quand même appelé 3-4 fois, voilà, pour me dire par rapport à l'avancée des procédures. Ensuite, donc moi, j'ai passé mon année sans vraiment me poser la question de quand est-ce que ça allait arriver, parce que je sais que c'est des procédures extrêmement longues. La plupart des gens qui dénoncent les violences policières, les dossiers sont classés sans suite. Donc en vrai, je n'avais pas vraiment d'espoir en la justice non plus. Bizarrement, j'ai eu des nouvelles assez tôt des suites de la plainte, comme quoi j'aurais un droit à un procès au tribunal correctionnel de Bayonne, qu'on a retrouvé l'identité du tireur. À ce moment-là, j'ai de l'espoir parce que je me dis qu'on est très peu à avoir accès à ce genre de procédure. Surtout, dans mon cas, on a retrouvé le tireur. Le procès, il était prévu le 26 juin, à partir de 9h du matin. Entre voilà, le jour où j'ai reçu la convocation et le jour du procès, ça nous laissait un mois de délai. On est resté en contact avec mon avocate pour s'organiser pour le procès. On a mis en place des entretiens où on s'est vus pour discuter de comment ça allait se dérouler.
On a reçu seulement 2 semaines avant le procès le dossier complet de l'IGPN, qui tenait compte quand même de violences volontaires dans le sens où l'initiative a été une initiative personnelle, c'est-à-dire que le policier a pris la décision de tirer, donc l'acte en soi était volontaire. Une fois qu'on a eu le dossier, je me suis organisée avec mon avocate pour faire intervenir un témoin de moralité, qui était Yann B. des Armonlais. Parce qu'on voulait faire quand même un peu de ce procès une sorte de tribune, parce qu'on avait des choses à dire. Je voulais que mon procès, ce soit le mien, étant donné qu'il y avait le policier qui m'a directement tiré dessus, qui était présent, quoi. Mais je voulais aussi élever aussi des questions plus précises sur des rapports qui existent depuis des années sur les armes utilisées dans le maintien de l'ordre en France. Donc ça, c'était vraiment notre objectif. Et une semaine avant le procès, du coup, mon avocate a appris par l'intermédiaire de l'avocat du policier que finalement, il ne s'agissait pas d'un procès au correctionnel habituel, en fait. C'était un CRPC. CRPC, c'est une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est un peu basé sur le plaidé coupable à l'américaine. Et c'est le genre de procédure qui est là pour en fait négocier une peine un peu allégée si son dossier, son casier judiciaire est vierge, s'il a fait que des délits mineurs avant ou s'il est policier, quoi. Et qui permet aussi en fait de combler un peu le manque de moyens de la justice en faisant passer des dossiers assez rapidement. On fait une proposition de peine à l'accusé et après, libre à lui le choix d'accepter la proposition et sa peine, ou bien de la refuser et du coup, à ce moment-là, le dossier passe en correctionnel habituel, quoi. Avec mon avocate, on n'a pas trop compris, parce que c'est quand même une question importante. Enfin, les violences policières, c'est quelque chose qui concerne le débat public. C'est pas normal qu'on essaie de faire passer ce genre de plainte sous le tapis, en fait, un petit peu. Moi, je me suis sentie pas respectée. On m'a donné, en fait, un statut de victime, mais que je ressens pas comme telle, en fait. C'est simplement entre le tribunal et un accusé. Voilà, donc tout était préparé à l'avance, en fait. La peine était déjà proposée, c'est-à-dire que ce jour-là, déjà, on s'est retrouvés du coup avec des personnes du collectif des mutilés pour l'exemple. Donc, ils sont venus me soutenir. Il y avait des gens, des locaux qui sont venus me soutenir, des gens d'ailleurs qui sont venus me soutenir, des gilets jaunes. Bon, il y avait pas mal de monde ce jour-là devant le tribunal pour me soutenir. Donc ça, c'était cool. Et en fait, la procédure consistait à... moi, je suis avec mon avocat, j'attends dedans ou dehors le tribunal. Pendant ce temps, lui, en fait, le policier se retrouve simplement avec son avocat et le juge, et il se retrouve en huis clos. En fait, lui, son audience est en huis clos. Et donc, le juge lui fait sa proposition de peine. Donc, forcément, la peine était assez alléchante. Hein, 90 jours amende à 15 euros, sans inscription dans le casier judiciaire, donc il peut continuer à exercer. Donc forcément, il a accepté, et c'est à partir de ce moment-là, du coup, que moi et mes parents, après avoir bataillé pour les faire rentrer, on a quand même réussi à les faire rentrer, et au moment où on est rentré dans la salle d'audience, du coup, là, le coupable, en fait, est rappelé à la barre pour qu'il reconfirme qu'il a bien accepté la peine proposée. Et et à ce moment-là, ils ont un peu magouillé le procès, parce que normalement en CRPC, il n'y a pas un avocat qui est censé débattre, il n'y a pas de place en fait pour un témoin de moralité normalement, donc tout a été décidé à l'avance par simple pitié, je dirais. En fait, on nous a donné la possibilité à mon avocate, moi et mon témoin de moralité de nous exprimer, donc en fait on a fait une sorte de tribune un peu sur ce qui m'est arrivé à moi et sur les violences policières en général. Qui n'aboutissait à rien, parce qu'il n'y a aucune négociation possible, il n'y a aucun appel possible, il n'y a rien en fait. La décision a été est validée parce que le coupable, lui, a la possibilité de valider cette proposition. Donc ce jour-là, en fait, je me suis retrouvée entourée de journalistes. En fait, je suis arrivée dans la salle était déjà pleine. Il y avait des journalistes, des personnes du syndicat Alliance, plein de policiers partout en civil, qui étaient un peu debout partout dans la salle, Donc j'ai eu le droit à ça, à ce qu'on laisse, qu'on laisse mon avocate faire son petit discours qu'on écoute à moitié. Tout le monde s'en fout parce que de toute manière, la sanction est déjà validée, déjà décidée. Et voilà, et j'ai le droit d'être accompagnée seulement de mon père et de ma mère. Et tous les autres, en fait, c'était des policiers, des syndicats. J'ai eu le droit à ça. Et à la fin, j'ai eu le droit à des mots de la part du policier. Après, voilà, sur le moment, j'ai décidé d'accepter ces mots qu'il avait à me dire. Le policier m'avait l'air sincère, mais enfin, honnêtement, tout est injuste dans cette procédure. Pour le tribunal, en fait, la proposition de 1 350 €, elle est symbolique, mais enfin, pour moi, en fait, il n'y a rien de plus symbolique qu'une interdiction de port d'armes pour X temps, ou enfin, une décision vraiment symbolique, quoi, qui met vraiment enfin, tout ça en lumière et pas une simple amende comme ça. Enfin, voilà, parce que 1 350 € d'un côté, j'ai envie de dire non, mais. C'est tout ce qu'on me laisse, quoi, en fait. Donc d'un côté, accepter. Enfin, voilà, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir un policier qui a été identifié, qui est présent le jour de mon procès, qui a le courage, entre guillemets, qui a le courage de me parler et de me regarder droit dans les yeux. Voilà. Après, moi, j'ai pas répondu, voilà. Enfin, émotionnellement, j'étais assez... Enfin, j'étais pas touchée par ces mots, en fait, mais j'étais juste soulagée, quoi. Parce que je réalisais aussi que j'avais eu le droit à ça. Et j'ai pas pleuré parce que ce qu'il m'a dit, ça m'a fait du bien. C'est juste... j'ai relâché beaucoup de pression à ce moment-là. Une fois à la fin du procès, il m'a parlé, je l'ai vu. J'ai vu sa tête, j'ai vu son visage, j'ai vu ses yeux. Voilà, c'est un moment, c'était une étape, quoi. Et maintenant, après, il reste tout le reste. Et entre blessés... en tout cas que je connais, qui ont porté plainte, on se prépare aussi à ce que potentiellement il va lui faire passer ce genre de plainte et ce genre de violence dans un cadre de CRPC, quoi. Et qu'on se prépare du coup à pas se laisser faire avec ce genre de procédure totalement injuste pour la victime, et voilà.